à tous. On connaît maintenant la composition du gouvernement mis en place par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, et son premier ministre, Édouard Philippe. Mais avant même d'en connaître les noms, on en connaissait l'orientation. À droite, toute. Macron ne s'en était pas caché pendant sa campagne. Il veut aller plus loin que les lois El Khomri, donner encore plus de pouvoir aux patrons et aux entreprises pour licencier, baisser les salaires, aggraver l'exploitation. Le nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est tout à fait dans cette ligne. Il est passé du service à Sarkozy, de Sarkozy à celui de Fillon. Il a quitté Fillon en déroute pour rejoindre Macron. En fait, c'est un arriviste qui avait fait campagne il y a quelques années contre l'assistanat. Alors non, il ne mettait pas en cause les banques et les entreprises qui sont les vrais assistés, qui reçoivent des milliards du gouvernement sous différentes formes de subventions. Ce sont les chômeurs qu'il visait en proposant notamment de privatiser Pôle emploi et de plafonner toutes les aides sociales à 2/3 du SMIC. Donc, on sait à quoi s'attendre cet été. Macron a déjà annoncé qu'il compte faire passer ses lois antisociales par ordonnance, c'est-à-dire sans débat des députés et des sénateurs, une sorte de super 49-3 qu'avait utilisé Valls pour faire passer la loi El Khomri. Ceux qui étaient contre voter Macron à la présidentielle avaient raison. Ce sera un président pour les patrons et contre les travailleurs. Et c'est cette politique de Hollande, Valls, Macron, El Khomri qui a coulé le PS à l'élection présidentielle. C'est cette politique anti-ouvrière qui va coûter au Parti Socialiste une bonne partie de ses députés qui ne seront pas élus ou réélus lors des prochaines élections législatives en juin prochain. Comme à chaque fois que le Parti Socialiste accède au pouvoir après avoir fait des promesses aux électeurs populaires, ses dirigeants se soumettre aux lois du capitalisme et aux volontés patronales. Et après chaque défaite électorale des dirigeants, se prépare pour le retour au pouvoir, pour l'alternance suivante, 5 ou 10 ans plus tard. Et avec leurs deux courants récemment créés, Martine Aubry et Benoît Hamon tentent chacun leur chance pour récupérer des morceaux du PS en déroute. Or le problème, c'est que ce schéma d'alternance droite-gauche, gauche-droite, qui domine la politique en France depuis près de 60 ans, ne fonctionne plus. Les deux principaux partis, PS et UMP les Républicains, sont usés par l'exercice du pouvoir et par les affaires de corruption. Les électeurs se déplacent de moins en moins pour voter ou votent de plus en plus pour un troisième larron, le Front National de Marine Le Pen. Et à cette élection présidentielle, on a vu qu'un quatrième pôle se dessinait dans les élections, celui des insoumis de Mélenchon. Ce qui fait que les électeurs se partagent entre 4 forces électorales qui recueillent entre 20 et 25% des voix. Cette configuration électorale instable pour former des gouvernements rappelle la 4e République avant que De Gaulle ne fonde la 5e en 1958. Et au-delà des politiciens dont ma carrière devient aléatoire et précaire, le patronat n'est guère satisfait de cette instabilité qui peut nuire au suivi des subventions et cadeaux qu'il reçoit des gouvernements. Alors, certains politiciens comme Macron tentent le coup de mettre sur pied un type de gouvernement qui ne repose pas sur les partis traditionnels PS et les Républicains. C'est pour cela que Macron, ex-ministre PS, a débauché un premier ministre chez les Républicains et qu'ensemble, ils ont pris une moitié de ministres dans les partis et une autre moitié dans la soi-disant société civile, dont plusieurs ont cependant déjà travaillé pour des cabinets ministériels. Alors la presse s'extasie sur l'habilité de Macron qui serait en train de casser les Républicains. Effectivement, ce parti pouvait espérer revenir au gouvernement après 5 années de pouvoir de Hollande, qui a discrédité le PS. Mais la primaire pour choisir le candidat des Républicains a fait sortir Fillon au lieu de Juppé. Et Fillon, ce chrétien intègre comme il se présentait, s'est discrédité avec les emplois fictifs de sa femme et de ses enfants. Alors, que faire quand on est politicien de droite? Rallier Macron et peut-être créer une nouvelle force politique qui donnerait plus de chances d'être élu député, ou bien rester avec le parti des Républicains en pariant que l'élan Macron ne se reproduira pas lors des législatives. Ou pourquoi pas flirter avec le parti de Marine Le Pen. Mais c'est qu'au Front National, la défaite est dure à digérer. Les dissensions se révèlent au grand jour. La plus flagrante est la démission de sa nièce, de la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, officiellement pour des raisons familiales, mais aussi probablement pour se rendre disponible un jour pour une ligne politique encore plus à l'extrême droite que celle qu'a annoncée Marine Le Pen. Vous voyez donc que le choix des électeurs pour les législatives sera bien compliqué. Il y aura les candidats, la France insoumise de Mélenchon, mais aussi les candidats du PCF, car Mélenchon a bien voulu du soutien du PC à la présidentielle, mais il refuse de ne pas présenter de candidat dans les circonscriptions où le PC espère se faire élire. Ce qui montre, là aussi, que la politique du PC de soutenir Mélenchon était aberrante. Il y aura les candidats Les Républicains, qui vont hésiter entre leur parti traditionnel ou le courant La République En Marche de Macron, qui se prépare à appliquer toute une partie du programme de Fillon. Et en plus, les candidats Les Républicains se divisent entre ceux qui sont prêts à soutenir Macron et son gouvernement et ceux qui se préparent à rester dans l'opposition. Bien sûr, il y a les électeurs du Front National. Beaucoup sont déçus que Marine Le Pen n'ait pas été élue. Les vieux réactionnaires qui suivaient son père ou les jeunes tendances fascistes, bien sûr. Mais sont déçus aussi ceux qui nous répondaient « on ne l'a jamais essayé » quand on leur disait que Le Pen était comme les autres, qu'elle défendait les intérêts des patrons, pas les intérêts des travailleurs, et qu'elle mentait. Est-ce que les candidats du Front National retrouveront les voix de Marine Le Pen? Ce n'est pas impossible, car l'opposition à Macron ont amené beaucoup de travailleurs à voter Le Pen au second tour de l'élection. Et pour marquer leur opposition au gouvernement Macron-Philippe, il est possible que ces électeurs renouvellent leur geste. Ce vote, pour les candidats du Front National, est une erreur profonde pour les travailleurs. Il va contribuer à ancrer dans la société les idées les plus néfastes aux travailleurs. Le nationalisme, la division entre les Français et les immigrés, la division entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, ou qui n'en ont plus. L'illusion qu'un politicien appoigne pourrait sauver les travailleurs de la misère. Ce vote est très dangereux. Il faut continuer à le combattre en tentant de convaincre les électeurs qui passent à notre portée qu'en votant Front National, ils votent contre eux, que des Marine Le Pen, on les a déjà essayés. C'était Pétain pendant la guerre, c'était Mussolini en Italie, Franco en Espagne, et aussi Hitler en Allemagne. Alors bien sûr, Marine Le Pen ne suit pas la voie d'Hitler, de Franco ni Mussolini, mais le renforcement du Front National dans la durée et dans le nombre d'électeurs prépare dans ses rangs l'émergence de tels futurs dictateurs et futurs assassins d'ouvriers. C'est pour cela que le seul vote clair et utile pour les travailleurs, c'est le vote pour les candidats de l'ouvrière. C'est pour cela que nous appelons les électeurs de Nathalie Arthaud à renouveler leurs gestes avec les différents candidats qui se présentent pour faire entendre le camp des travailleurs. C'est là qu'est l'enjeu fondamental de la société dans les années qui viennent. La crise économique va s'accentuer avec les entreprises qui vont licencier pour maintenir les profits des actionnaires et des patrons, avec les entreprises qui vont vendre moins et qui, du coup, licencieront à leur tour. À la crise économique risque de s'ajouter une crise politique. L'instabilité des gouvernements, la montée des insoumis et du Front National. Et les deux seront quasiment aussi dangereux pour les travailleurs. Ces deux pôles d'opposition au gouvernement de la bourgeoisie sont aussi nationalistes l'un que l'autre. Il ne faut pas oublier Mélenchon, qui dénonçait les travailleurs détachés, venant prendre le travail des Français, plutôt que de dénoncer le capitalisme, qui a toujours utilisé la division entre les travailleurs pour asseoir son exploitation. Mais c'est dans les luttes à venir des travailleurs que le danger est encore plus grand. Parce que pour le moment, les travailleurs ne sont pas vaincus. Ils n'ont pas subi de défaite, car il n'y a pas eu de combat comme ceux de 1968, ou surtout de 1936. La classe ouvrière est juste assommée par les coups qu'elle prend, démoralisée par le chômage et l'effondrement du Parti communiste et du Parti socialiste, dans lesquels les électeurs espéraient. Et il y aura des luttes importantes dans les années qui viennent, car c'est l'augmentation du chômage, c'est la baisse du niveau de vie devant la montée des prix, ce sera peut-être la baisse des salaires et des retraites qui déclencheront des luttes bien plus importantes que les manifestations contre la loi El Khomri l'année dernière. Ce sera peut-être l'arrogance du président ou d'un ministre, ou peut-être les débuts du rétablissement du service militaire qui allumeront la mèche d'une explosion sociale. En tout cas, les luttes des travailleurs auront lieu. Mais le problème qu'il y aura, c'est pour quelles revendications, c'est pour quels objectifs, avec quelle direction on grève aux manifestations. On a déjà vu plusieurs mouvements où les travailleurs se sont retrouvés à la remorque des petits patrons mécontents, comme les manifestations des bonnets rouges en Bretagne, et dernièrement, les grèves en Guyane, où ce sont les patrons des entreprises qui ont bénéficié des concessions du gouvernement. Et pour obtenir quelque chose, les travailleurs des hôpitaux et de l'EDF ont dû continuer leur grève. Si c'est cela qui se reproduit à une plus grande échelle, les sacrifices que feront les travailleurs en lutte ne bénéficieront qu'à ceux qui sont au-dessus d'eux, à une partie du patronat. Et cela pourrait se traduire par une réelle démoralisation. Mais si ce sont des militants du Parti communiste reconvertis en insoumis, des aventuriers réformistes qui prennent la tête des luttes, ils les conduiront obligatoirement vers des impasses, car ils ne veulent pas réellement mettre fin à cette société d'exploitation. Ils veulent seulement que l'exploitation soit plus douce, ce qui n'est pas possible dans une période de crise mondiale dans laquelle nous nous enfonçons. Mais si le Front National se renforce, si des militants et pas seulement des électeurs apparaissent dans les entreprises, on pourrait voir à la tête des luttes des travailleurs des dirigeants qui les conduisent dans des dérives nationalistes, racistes, des dérives de division. Il faut qu'il y ait des luttes des travailleurs pour mettre fin au chômage en partageant le travail, pour relever le niveau de vie en augmentant les salaires et les retraites, à au moins 1 800 euros mensuels, pour contrôler les comptes des entreprises, pour savoir où va l'argent. Mais tout cela ne sera possible que si ces luttes sont dirigées par des travailleurs conscients des intérêts de leur classe, des travailleurs qui ne se laisseront pas berner par le nationalisme, dévoyé par les multiples divisions que le capitalisme introduit volontairement au sein de la classe ouvrière. Et c'est ce rôle indispensable que nous nous assignons de relever, et ce rôle, c'est de relever la conscience ouvrière pour les luttes à venir. Relever la conscience ouvrière, ça commence par se réapproprier l'expérience passée du mouvement ouvrier, pour comprendre comment il a pu être fort et quelles ont été aussi ses faiblesses. Relever la conscience ouvrière, c'est renouer avec l'internationalisme pour donner toute sa puissance aux mobilisations ouvrières dans chaque pays et au-delà des frontières. Relever la conscience ouvrière, c'est renouer avec la démocratie dans les luttes, c'est-à-dire que ceux qui font grève décident démocratiquement et contrôlent l'application de leurs décisions. Sinon, il ne peut pas y avoir de lutte solide s'il n'y a pas une démocratie réelle. En réalité, l'histoire de tout mouvement ouvrier montre qu'un parti politique ouvrier révolutionnaire, un parti communiste, est nécessaire. C'est un programme qui est immense, qui peut paraître nous dépasser. Mais comme l'a dit Edith, quand il y a des luttes importantes, la conscience des travailleurs change radicalement. L'expérience s'acquiert très rapidement. Ce qui mettait des années à être compris, ça prend en quelques jours. C'est pour cela que nous sommes confiants dans l'avenir et c'est notre raison de lutter. Alors, votez et faites voter pour les candidats de lutte ouvrière dans ces élections législatives et quel que soit le résultat, le combat continuera après.